France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 30 mars. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, une troisième vague pire que la deuxième dans les services de réanimation, particulièrement en Île-de-France, où plus on attend, plus les projections des hôpitaux de Paris sont inquiétantes. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
L'isolement des personnes âgées n'est pas assez pris en compte dans cette crise sanitaire. C'est le rapport publié ce matin par l'association Les Petits Frères des Pauvres. Le témoignage exclusif sur France Inter de Florence Porcel à l'origine des accusations de viol contre PPDA. Le Mozambique en proie à une attaque revendiquée par l'État islamique. Et puis s'il vous vient une subite envie de cultiver votre jardin, c'est normal, c'est le printemps.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Elle a été la première femme imam en France. Elles sont trois aujourd'hui. Elle publie « Mon islam, ma liberté » où elle raconte son histoire et prône, même si elle est un peu seule parfois, un islam moderne, progressiste et libéral. Kaïna Baloul sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui le chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris, le professeur Gilles Pialoux. Vous pourrez dialoguer avec lui évidemment au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il y a les mots, ceux des médecins, pour décrire la fatigue des soignants, les services surchargés et la perspective d'un tri des malades. Et il y a les chiffres qui ce matin font froid dans le dos. La troisième vague est déjà pire que la deuxième, avec 4974 malades en réanimation, contre 4903 le 16 novembre dernier. Et en Île-de-France, les projections de la PHP à courte échéance sont extrêmement inquiétantes. 1484 malades en réa aujourd'hui et demain, des niveaux jamais atteints jusqu'ici. Daniel Messager.
Ces projections sont fiables, affirment plusieurs médecins qui ont participé à la visioconférence de crise. Si un confinement dur ne se met pas en place très rapidement, c'est-à-dire au 1er avril, le nombre d'hospitalisations chaque jour en Île-de-France sera de 230, il est de 120 aujourd'hui, et un pic au 12 avril avec un nombre de malades en réanimation de 3470. Et plus on attend, plus la courbe grimpe, le professeur Bertrand Guidet, chef de service de réanimation à l'hôpital Saint-Antoine.
Si on attend encore un peu, c'est-à-dire en imaginant un confinement qui interviendrait le 8 avril, le pic serait en gros autour du 19 avril. Et là, on arrive à des chiffres vertigineux, avec un nombre cumulé de malades en réanimation en Île-de-France qui serait supérieur à 4000. On parle de 4400 malades. Et donc, on ne sera pas capable de faire face à la demande. On admettra en réanimation les malades dont on pense qu'ils vont le plus bénéficier de la réanimation. Que fait-on des autres? Nous ne souhaitons pas, nous, en tant que professionnels, en tant que réanimateurs, assumer seul la responsabilité de telles situations extrêmes.
Même en déprogrammant au maximum, même en prenant en charge avec des oxygénations à très haut débit dans des salles autres que de réanimation, les médecins le savent, il faudra alors faire des choix.
Faire des choix, ce sera aussi l'objectif du Conseil de défense sanitaire demain matin, avec à la clé de possibles nouvelles restrictions, notamment ce qui concerne les écoles. Le nouveau protocole entré en vigueur hier s'est traduit par la fermeture de nombreuses classes dans les 19 départements confinés. Pas de bilan global, mais des fermetures de classes signalées dans le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis ou encore les Hauts-de-France. Près de 8 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin en France, plus de 2,5 millions les deux doses. De quoi améliorer la qualité de vie des plus âgés, car selon le rapport publié ce matin par l'association Les Petits Frères des Pauvres, si les soins essentiels ont été prodigués, l'aide morale et psychologique n'a pas été suffisante. C'est ce qui ressort de la centaine d'entretiens effectués par l'association. Rémi Brancato.
Seule une personne âgée sur 10 qui a consulté son médecin depuis un an a pu se confier sur son état de santé morale. Pourtant, la situation pèse. À Paris, c'est ce que constate Vincent Lapierre, psychologue spécialiste en gérontologie et directeur du centre de prévention du suicide.
On entend plutôt des plaintes sur la possibilité de se projeter dans un après, sur les liens familiaux. Hein. Quand est-ce que je pourrais de nouveau toucher les autres et être touché par eux? Ça revient très régulièrement.
Et avec une vie bouleversée, les personnes âgées peinent davantage à trouver leur place.
Il y a même un discours qui est qu'on s'est confiné, c'était pour les protéger, elles, parce qu'elles sont vulnérables. Cette question de l'utilité sociale, elle est particulièrement délétère quand soi-même, on s'est senti utile un jour et qu'on ne se sent plus utile aujourd'hui.
S'ajoute un isolement dans la durée que détaille le rapport des Petits Frères des Pauvres et Yann Lanier, délégué général de l'association.
À qui je peux parler de problèmes qui relèvent de l'intime. Des centaines de milliers de personnes nous ont dit ne pas avoir pu.
D'autant que les consignes sanitaires ont parfois renvoyé une image négative de la vieillesse.
La considération de la société dans le moral global des personnes est vraiment quelque chose d'important. Or, les personnes âgées regardent beaucoup la télévision. Certaines paroles ont été extrêmement malheureuses et moi je n'ai pas peur de parler de quasi-bombe à fragmentation.
L'association craint une explosion des phénomènes de glissement, de perte d'autonomie et appelle le gouvernement à réagir.
Rémi Brancato. Et c'est une autre décision que le gouvernement devra prendre dans les jours qui viennent, maintenir ou non les élections régionales en juin. Le Conseil scientifique a émis hier des recommandations sanitaires, mais sans se prononcer sur le fond. C'est une décision éminemment politique, estime le Conseil. Alors, quelles étaient hier les premières réactions au sein des états-majors politiques? Enquête signée Laurence Perron.
C'est un rapport de qualité, mais d'une extrême prudence.
Dominique Bussereau, le président Les Républicains de l'Assemblée des départements de France.
Peut-être fait-il payer au gouvernement le fait qu'à certains moments, le gouvernement ne l'a pas suivi.
Il est pour le maintien du scrutin en juin, tout comme Karim Adeli, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, qui affronte à la tête d'une liste de l'ensemble de la gauche unie, le patron de la région, Xavier Bertrand, dans les Hauts-de-France.
Nous ne pouvons pas boycotter la démocratie. Le Conseil scientifique demande au gouvernement de prendre ses responsabilités.
Si à l'exception des écologistes, les chefs des états-majors politiques jouent la prudence, ni la gauche, ni la droite, ni le RN, encore moins le parti présidentiel, ne peuvent escompter des victoires faciles. Les élus locaux, qui ont commencé la campagne, n'entendent pas se la faire voler. Ils considèrent même pour certains qu'elle peut jouer une forme d'exutoire à la colère du pays. Arnaud Viala, candidat de la droite LR de l'Aveyron.
On faisait courir à notre pays un grand risque, celui des extrêmes lors de la présidentielle. Ce scrutin-là, totalement imbougeable, aurait du coup cristallisé tous les mécontentements que les gens n'auront pas l'occasion de débattre avant.
Le président de la République y trouve aussi son compte. Il pourrait laisser au Parlement le choix du report et libre cours aussi aux divisions des oppositions sur la question.
Et le gouvernement a donc effectivement jusqu'à jeudi pour soumettre son rapport au Parlement. Mesures décalées, concurrence exacerbée sur les vaccins, fermeture unilatérale des frontières, la crise du Covid-19 a montré l'impossible entente au sein de l'Union européenne et au-delà. Paris, Berlin, Londres et une vingtaine de capitales appellent à élaborer un traité international sur les pandémies pour affronter les futures crises sanitaires.
Il est 7h07, la jeune femme qui a déclenché l'affaire PPDA parle à Agnès pour la première fois à la radio et c'est sur Inter.
Florence Porcel a jeté un pavé dans la mare du paysage audiovisuel en portant plainte contre l'ex-icône du 20h de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, qu'elle accuse de viol. Une plainte qui a suscité une vague d'autres témoignages contre le journaliste star. Florence Porcel, elle a été entendue dans le cadre de l'enquête ouverte par la justice et elle s'est confiée à Sophie Parmentier.
Florence Porcel se dit déterminée, autant qu'apeurée, la peur de ne pas être crue face à l'ex-roi de la télé, Patrick Poivre d'Arvor, qu'elle accuse de viol.
Il a volé ma vie sentimentale, ma vie amoureuse, ma vie sexuelle, qui sont inexistantes, qui n'existent pas parce que j'en suis incapable. À cause de lui.
Elle avait 21 ans, elle guérissait d'une tumeur au cerveau et n'avait encore jamais embrassé un garçon quand PPDA l'a invitée à TF1 le 8 novembre 2004, raconte-t-elle.
Patrick Poivre d'Arvor m'a invitée à assister à un JT. Il m'a reçue après dans son bureau et en fait c'est très insidieux parce que il a commencé par me mettre à l'aise et puis tout à coup il a basculé. Il est passé d'un homme accueillant, voilà, essayant de mettre à l'aise, a vraiment un danger qui a fondu sur moi.
Florence Porcel décrit deux viols, le premier en 2004, le deuxième en 2009. Entre les deux, une rencontre consentie. Elle dit qu'elle a tenté de se persuader qu'elle était amoureuse de PPDA, tout en sachant qu'elle se mentait à elle-même. Aujourd'hui, Florence Porcel espère que d'autres femmes porteront plainte comme elle. Plusieurs femmes accusant Patrick Poivre d'Arvor d'agression sexuelle viennent d'être entendues par la justice ces derniers jours. Lui n'a pas encore été auditionné et dénonce des calomnies.
Un témoignage à retrouver en longueur et en exclusivité sur franceinter.fr.
Il est 7h09, Agnès. Que s'est-il passé ces derniers jours au nord du Mozambique?
La petite cité portuaire de Palma n'est plus qu'une ville fantôme depuis la violente attaque la semaine dernière revendiquée par l'État islamique. Le gouvernement mozambicain parle de dizaines de morts. Des milliers de civils ont pris la fuite. D'autres sont portés disparus. Les autorités, mais aussi des groupes de bénévoles, tentent de retrouver les rescapés. Olivier Poujade.
Le réseau citoyen de Johanna coordonne, met en relation des entreprises, des familles à la recherche de leurs proches ou ayant retrouvé la trace de civils, rescapés ou victimes de cette attaque aussi violente que soudaine.
Des personnes se sont réfugiées dans les hôtels, certaines sont parties dans la forêt, d'autres ont fui par la mer. Il y a ceux qui ont fait demi-tour pour tenter de sauver des gens qu'ils ont retrouvés morts. Une violence sans limite, atroce, que vous soyez femme ou enfant, aucune différence, un chaos total.
Les 75 000 habitants de Palma ont dû faire face à cette terreur, provoquée pendant plusieurs jours par un groupe extrémiste autour de 150 hommes parfaitement organisés, dont l'action est aujourd'hui revendiquée par l'organisation État islamique.
Il y a beaucoup d'interprétations autour de cette violence, comme les récits qui associent ces groupes à l'État islamique. Mais ceux qui connaissent vraiment la région savent que ce n'est pas aussi clair.
De grands espoirs de développement du pays reposent sur cette région, à 10 km de Palma, un site gazier dans lequel le groupe pétrolier Total a investi plusieurs dizaines de milliards d'euros, une zone où les groupes djihadistes se mêlent aux mercenaires de sociétés de sécurité privées chargées de pallier les faiblesses de l'armée mozambicaine.
Et à 8h15, Pierre Aski reviendra sur la situation au Mozambique. Le bilan s'alourdit en Birmanie. La répression violente menée par la junte militaire a fait plus de 500 morts, dont de nombreux étudiants et adolescents qui protestent pacifiquement depuis deux mois contre le coup d'état militaire et l'arrestation d'Aung San Suu Kyi. La France dénonce une violence aveugle et meurtrière. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain à la demande de Londres. Enfin, du soleil sur toute la France et des températures printanières jusqu'à 29 degrés prévues cet après-midi sur la côte basque. Il n'en fallait pas plus pour réveiller le jardinier qui sommeille en nous. Que l'on dispose d'un jardin ou d'un simple rebord de fenêtre, l'envie est forte de voir pousser de jolies fleurs ou des radis. Rendez-vous à la jardinerie, c'est un reportage de Béatrice Duguay.
Au départ, il y a le contenant.
Il manquait deux pots, donc je suis venue les chercher.
Ses deux terres cuites sous le bras, Philippine s'en va égayer son rebord de fenêtre. La cliente suivante repart elle avec des campanules, des pinstémones, des roses trémières, de la mauve musquée.
Je suis hollandaise, donc les plantes et moi, c'est inné.
Voilà, madame a fait un très beau jardin à l'anglaise, ça va être très joli, très cottage.
Pour essayer le lupin aussi peut-être, hein.
Le lupin aussi, c'est une valeur sûre. Éventuellement, il faut lui mettre une petite cloche pour éviter que les petits escargots ou limaces viennent grignoter les jeunes pousses, parce qu'ils aiment beaucoup. Okay. Une fois qu'elle sera développée, il n'y aura pas de soucis.
Ça tombe bien, je viens d'acheter une cloche.
Il suffit donc de quelques rayons de soleil et des degrés qui vont avec pour que Dominique Ardouin voit les clients bourgeonner.
Dès qu'il fait beau, les gens ont envie d'avoir des fenêtres avec des fleurs. Avec...
Il est responsable de la boutique Villemorin, près du Châtelet, à Paris.
Ils veulent quelque chose d'immédiat. L'autre jour, on avait des tomates cerises avec des fruits dessus. Voilà, c'est parti, parce que les gens se disaient c'est trop sympa d'avoir ça sur son balcon, quoi. Et puis ça permet de faire découvrir aux enfants, cultiver ses fraises soi-même, faire ses semis soi-même. Ce seront peut-être des futurs jardiniers, donc c'est tout bon pour nous.
Pour ma part, la tentation est trop forte. Un paquet de radis dans la grande jardinière. Les graines doivent lever dans quelques jours. Je vous tiens au courant.
Voilà, on attend donc les premiers radis de Béatrice Duguay. Je me suis renseignée, il faut attendre à peu près 18 jours.
D'accord, merci, le rendez-vous est pris. Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes sur le dernier dessin de Plantu.